Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce 41e épisode, j'ai échangé avec Chloé Hermary, fondatrice et CEO d'Ada Tech School. Aujourd'hui en France, seulement 10% des élèves des formations tech et informatique sont des femmes. Les stéréotypes genrés et culturels autour du code sont encore lourds. Ada Tech School, c'est une école de programmation pensée pour les femmes, mais ouverte à toutes et à tous. Au tout début de notre échange, Chloé m'a dit « L'entrepreneuriat, avant de le faire, je n'y ai jamais pensé. » Avant d'entreprendre, Chloé a eu un parcours de bonne élève, malgré 2 années de classe préparatoire très difficiles, et fera ses études au sein de HEC Paris. C'est après des expériences en finance et au sein d'une start-up à New York qu'elle lance son premier projet, Talent.me, un bilan de compétences pour les jeunes. Elle se rend vite compte que le projet ne pourra pas décoller, la cible étant difficile à convaincre. Passionnée par l'éducation et déterminée à vouloir repenser le système éducatif de l'informatique, Chloé créera Ada Tech School en septembre 2018. Et dans cet épisode, Chloé vous raconte notamment son histoire, de ses années difficiles de classe préparatoire à aujourd'hui, l'histoire d'Ada Tech School, comment a-t-elle créé une école d'informatique, qu'est-ce qu'une école de code féministe, l'histoire d'Ada Lovelace, la femme qui a inspiré le nom de son école, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre. Un grand merci à Chloé pour son temps et pour cet échange très cool. Nul doute qu'Ada Tech School sera un succès. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous, ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Chloé Hermary, qui est la fondatrice d'Ada Tech School. Alors, Ada Tech School, on aura l'occasion d'en savoir plus dans ce podcast. C'est une école d'informatique féministe. Donc voilà, je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast, Chloé, et welcome dans Serial Entrepreneur.
Merci François, merci de ton accueil.
Alors, ma première question, comme dans chaque épisode, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre ? De vraiment, même à partir du lycée, tu vois, quel type d'élève t'étais jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à Ada Tech School.
Moi, j'ai un parcours de bonne élève. J'ai été une bonne élève. Alors, ce qui est assez marrant, et en plus, je pense que c'est quelque chose sur lequel je combats un petit peu, parce que c'est vraiment pas du tout une bonne mentalité d'être un bon élève quand tu veux être entrepreneur. J'étais plutôt élève dissipée à qui les parents ont dit non, ma fille, tu seras pas le clown de la classe, tu seras première de classe. Donc, j'ai décidé d'être première de classe. J'ai bossé comme il fallait. J'étais bonne élève, j'ai fait prépa. Et à ce moment-là, vraiment, enfin, l'entrepreneuriat, avant de le faire, en fait, littéralement, avant de le faire, je n'y ai jamais pensé. Et donc, j'ai fait une prépa commerce en me disant, tu rejoindras à ce moment-là, je vais bosser dans la mode. Et donc, du coup, j'ai fait une prépa. Et ce qui a été très difficile en prépa, j'étais dans une prépa assez sélective, conservatrice, compétitive. Et j'ai extrêmement mal vécu ces 2 années. Ça a été une gifle de la bonne élève, tu vois, qui en faisait pas trop, pour qui tout coulait, etc. Et la gifle de la prépa. Et vraiment, pas seulement une gifle de « Oh, c'est difficile, il faut bosser, quoi. » Je me suis pas fait d'amis en prépa. Je sortais plus. J'étais dernière de promotion. J'ai eu des soucis familiaux. J'ai eu des soucis personnels. J'ai eu des soucis en classe. Je me sentais pas soutenue. Et vraiment, tu vois, l'erreur 404 de, en fait, je ne sais plus qui je suis. Je sais pas quels étaient, tu vois, tes fondamentaux. Et donc là, grosse déprime. Hein. Moi, j'ai été accompagnée et tout par un psy, etc. Donc grosse claque. Et néanmoins, beaucoup d'obstination. Je suis pas quelqu'un qui abandonne beaucoup. Et mes parents m'avaient dit, hein, franchement, arrête. T'es vraiment, enfin, mentalement plus bien. Et je me suis fixée de finir en me disant, écoute, t'auras ce que tu veux, t'auras ce que tu peux. Et j'ai passé mes concours et j'ai eu HEC. Donc c'est un des trucs, c'est bizarre à dire, mais c'est une des joies du coup les plus intenses de ma vie, puisque complètement par surprise, le fruit de littéralement d'un acharnement pendant ces 2 années et du coup l'intégration dans cette école. Donc du coup vraiment mis à part ça, et si je le raconte pas, tu peux te dire vraiment parcours nickel de la bonne élève. mais la bonne élève qui, en fait, la bonne élève qui s'est pris une gifle et qui comprend en fait que, et c'est vraiment ce qui s'est passé en prépa, et c'est un des quelque chose qui nourrit énormément le projet d'Adatech School, c'est que en fait en prépa, au-delà du fait que ce soit difficile, j'avais un environnement dans lequel je me sentais pas bien, en fait, dans lequel je ne croyais pas en moi. Et ce que j'ai appris, c'est que quand tu ne te crois pas en capacité, quand tu n'es pas dans un endroit dans lequel tu es en capacité, en fait, tu ne peux pas. Et je pense que je l'avais vu quand je donnais des cours au lycée et que j'ai continué à donner des cours pendant très longtemps. On peut se retrouver dans des situations d'études, puis après professionnelles, dans lesquelles on est mis en échec par le contexte, par l'environnement, par les gens, par un truc psychologique. Et c'est hyper violent et c'est des moments où en fait on peut plus. Et je trouve que du coup, le plus important, c'est de retrouver des environnements dans lesquels tu te sens capable, parce que sinon tu ne peux pas être capable.
Ouais, non mais c'est clair. Et puis tu dis que tu as un parcours assez normal, mais finalement pas tant que ça, puisque t'as très mal vécu ces 2 années de prépa, et potentiellement c'est ces 2 années aussi qui t'ont forgé pour la suite aussi, potentiellement.
Ouais, ça m'a rendu vraiment tenace. ça m'a vraiment, en vérité, et ça je l'ai retrouvé ensuite quand j'ai monté ma boîte. C'était l'acceptation d'avancer dans la douleur à certains moments, et en se disant que ça pouvait et ça allait payer. Et pour le coup, ce que j'ai appris par la suite, c'était avancer dans la douleur, mais comprendre quels sont tes leviers de motivation et pourquoi tu le fais. Moi, la prépa, c'était finir. Tu veux pas abandonner. De toute manière, à la fin des fins, en vrai, tu risques rien. Enfin, tu vois, il y a un moment, on risque pas sa vie, on risque rien. Tu vas en sortir et t'auras ce que t'auras, et voilà. Et puis on en parlera plus et tu pourras dire que tu l'as fini, quoi. Et ça, c'était mon levier de motivation, c'était de ne pas abandonner et c'était d'obtenir ce que je méritais par rapport à mon effort. Dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a suivi, c'était le fait d'être tenace dans des moments difficiles et de voir aussi d'obtenir ce que tu le fruit de ton effort en fait par la suite.
Ok, l'abnégation et puis un peu beaucoup de résilience aussi pour pouvoir avancer, quoi.
Exactement. Ouais. Faut pas se formaliser de ses difficultés, il faut pas se formaliser de ses échecs, il faut pas se formaliser de ses erreurs. Et en fait, rien n'est définitif. Je sais plus, il y a une situation Winston Churchill que je vais extrêmement mal restituer. Ça m'a appris que la difficulté est pas finale et il faut pas s'en formaliser, il faut pas s'auto-flageller, il faut pas se condamner, il faut pas se dire qu'on est nul, etc. Parce que en fait, il peut en résulter des choses au bout d'un moment qui sont assez extraordinaires.
C'est clair, c'est clair. Après HEC, t'as lancé un projet avant Adatech School. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais. Donc moi, après HEC, on a une année de césure. Enfin, pendant HEC, on se demande ce qu'on va faire. On n'y a jamais réfléchi, évidemment, jusque-là. Donc moi, je décide de partir en finance. Je bosse dans un fonds dans lequel, job intéressant, intellectuellement stimulant, mais dans un cadre où vraiment, en fait, je m'y retrouve pas. Parce que hyper analytique, hyper désengagé de la réalité, assis derrière un bureau, etc. Et j'ai mis un peu de temps à le trouver, pareil, hein, je me suis un peu flagellée en me disant, franchement, de culpabilité, au début de penser que j'étais pas bonne, et puis ensuite de comprendre qu'en fait, je n'aimais pas ça. Ensuite, je suis partie en start-up à New York pour tester autre chose. Là, j'ai rejoint une toute petite boîte où on était deux stagiaires, et en fait les fondatrices nous avaient laissé littéralement les clés de la boîte, et j'ai appris en fait ce que c'était de mettre les mains dans le cambouis et de, alors c'était évidemment pas mon entreprise, donc il y avait plein de choses que j'avais pas découvert, mais de de développer en fait un projet jeune et un chiffre d'affaires, etc., etc. Donc je suis rentrée, j'ai fait la majeure entrepreneur et c'est là en fait où j'ai monté ma première boîte. Je l'ai dit là tout à l'heure sur en début de conversation. Jusque là vraiment, je ne m'étais pas dit que j'étais une entrepreneuse. Je ne m'étais pas dit que je voulais monter une boîte. Je m'étais dit, t'as appris que des environnements de travail dans lesquels t'étais bien. C'était un truc où tu faisais opérationnel, stratégique, opérationnel, où tu voyais le résultat de tes actions rapidement, où tu avançais en mode ouais, commando pour faire fleurir un projet. Et c'était ça que je cherchais. C'est pour ça que j'ai fait majeur entrepreneur à ce moment-là. Je me disais même pas en fait que j'allais monter une boîte. Et sauf que en fait, ce qui est formidable avec cette formation et que je recommande à toutes les personnes qui souhaitent monter une boîte, c'est qu'en fait, on a des horaires aménagés. On a la chance d'avoir un accompagnement qui est celui du coup d'une super école de commerce qui a fait sortir plein d'entrepreneurs, qui te fait un réseau, du coup tu rencontres plein d'entrepreneurs de ouf quoi, et tu as des horaires aménagés. Et moi je me dis à ce moment-là, toujours bonne élève, hein, je vous dis, mentalité de la bonne élève, bon bah mes horaires sont aménagés, pour valider mes crédits ECTS il faut monter un projet, c'est ce que font les bons élèves de cette formation, bah je vais monter une boîte quoi. Et vraiment, je le fais au début comme ça. Et en fait, je commence et puis commence à itérer sur une proposition de valeur, rencontrer des clients, vendre un petit produit. Moi, le truc du coup qui me porte, et je me dis, franchement, si tu dois monter une boîte demain, tu sais que ça va être difficile, tu sais que ça va être justement à nouveau le tunnel, donc il faut que tu trouves tes leviers de motivation. Et toi, ton levier de motivation, c'est que tu dois te dire que ça sert à quelque chose, quoi. Et si tu galères tous les jours à te manger des murs, il faut que tu te dises que le jour où tu arrives à le passer, ce mur, il y a du sens pour le futur et pour la société, qui, selon moi, aujourd'hui, rencontre énormément de défis et de challenges à surmonter. Et donc, du coup, tu dois te dire que tu résous un de ces challenges. Pour moi, il y avait deux sujets qui étaient hyper importants, qui étaient l'environnement et l'éducation. Avec une formation de commerce, honnêtement, franchement, l'environnement, j'avais pas de vision, quoi. Par contre, sur le secteur de l'éducation, j'en avais une. J'avais vécu des trucs difficiles. Je m'étais un peu laissée porter par le parcours de la bonne élève. Et au moment de sortir de ses études, je vois tous mes potes qui se demandent un peu quoi c'est à servir, où j'en suis, qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire et tout. Donc, un vrai questionnement sur le sens qu'on donne à sa formation, à son orientation, dans quelle mesure on est vraiment acteur, actif, engagé dans ce qu'on fait. Et puis, j'avais donné vachement de cours avant et du coup, j'avais observé aussi la douleur qu'on pouvait vivre à l'école et que j'avais vécue par la suite. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, tu veux réfléchir à comment, en fait, on peut reconnecter l'éducation avec l'engagement actif des apprenants. Et j'ai monté une première boîte qui était des bilans de compétences pour les jeunes, des formations de 2 jours pour trouver ton orientation de manière en trouvant tes valeurs, tes talents, en attaquant des sujets de gestion de stress, de confiance en toi, etc. Bref, un bilan de compétences en se disant pourquoi on le fait à 40 ans quand on fait un burn-out et qu'on ne le fait pas à 18 quand on demande de faire des choix à ce moment-là super impressionnants, quoi.
Super. Et comment t'en es arrivé à Data School justement? Parce que ce premier projet, ça a duré un peu moins d'un an, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument. J'ai monté ça avec une copine de promo. On a vendu des formations du coup à des parents. Ça a été le moment où j'ai appris que en fait entreprendre, je pouvais le faire. Parce que le jour où fallait vendre, donc du coup j'ai créé des Eventbrite, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appris à vendre, ce qui est, tu fais une école de commerce, en fait tu n'apprends pas à vendre. Donc j'ai commencé à décrocher mon téléphone pour parler à des parents, etc., et les convaincre de mettre leurs enfants chez moi. Et j'ai fait ces trucs ouais, d'entrepreneur, de main dans le cambouis, de en fait je vais tester si mon idée elle marche et si elle se vend. Elle s'est vendue, on a fait quelques formations, mais c'était extrêmement difficile à vendre. Parce que quand on vend des week-ends à des ados qui ne supportent pas leurs parents à ce moment-là, qui sont finalement les payeurs, qu'en plus quand t'es en week-end au lycée, en fait, t'as vraiment d'autres choses à faire que tu préfères soit faire la teuf, soit faire du sport, soit réviser ton contrôle de maths lundi, mais aller t'asseoir en cercle pour savoir le sens de ta vie. Si tu veux, c'est le cadet de tes soucis à ce moment-là. Donc, produit extrêmement difficile à vendre. Et donc, du coup, je veux dire, pas démotivation, mais décorrélation entre l'ambition que j'avais initialement, qui était une observation sur l'éducation, etc., l'apprentissage, l'engagement, et en fait, ma réponse qui était difficile à vendre, partielle, avec un impact difficilement mesurable et vendable, parce que tu vois qu'ils aient trouvé leur voie, ça, ils peuvent me rappeler dans 6 ans, 10 ans pour le faire, mais souvent, c'est pas du jour au lendemain. Et donc produit très difficile à vendre, marché difficile, etc. Business model pas très facile. Et donc du coup on a décidé d'arrêter. Et moi à ce moment-là du coup jusque là je pensais pas pouvoir dire que j'étais entrepreneur, mais en fait en l'ayant fait, j'ai eu, enfin l'expression que j'utilise c'est j'ai eu l'impression de mettre les doigts dans la prise. En fait contrairement à tu vois la différence entre ce que j'ai ressenti quand j'ai bossé en finance et le boulot que j'ai réalisé pendant cette petite année, en fait, ça n'avait juste rien à voir, quoi. Et le sentiment de toucher à une zone de talent, d'idées, de créativité, de te lever tout le matin, d'avoir des convictions sur quelque chose, d'être content de parler à tes clients, d'être content de parler, d'essayer de découper encore le problème, de mieux comprendre ton marché, de vendre. En fait, je me suis rendu compte que j'adorais vendre. Et du coup, je me suis dit, en fait, et puis en plus, là, j'avais trouvé un marché, un problème qui portait vraiment, quoi, sur lequel j'ai fait une thèse, etc. Donc, et donc, j'ai décidé de relancer un nouveau projet et de me dire que, en fait, le parascolaire et la formation à côté de l'école, c'était un pansement, que le vrai sujet, il était de réinventer l'école. Je pense que ce que j'avais souffert dans le premier problème, c'était, dans le premier projet, c'était la dissonance entre mon ambition et en fait l'offre, ce qu'on proposait. Et là, je me suis dit, je veux réaligner en fait l'ambition avec ce qu'on propose. Et vraiment, le vrai sujet, c'est de réinventer l'école. Je veux créer l'école Montessori pour après le bac. Et c'est comme ça en fait que la première brique d'Ada a été posée. Ouais. Après, il y en a plein d'autres, mais que j'ai décidé du coup de lancer ce nouveau projet.
Super. Juste avant de parler un peu plus d'Ada Tech School, j'aimerais bien revenir sur ton expérience en startup aux États-Unis, notamment sur la culture américaine. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience justement sur la culture, le mindset, etc., entrepreneurial qui est beaucoup plus présent aux États-Unis qu'en France?
Ce que j'ai trouvé, c'est que, alors, du coup, moi, je vais faire peut-être un amalgame entre la culture hyper corpo-finance que j'ai vécue en France et la culture entrepreneuriale US. Et après, bon, j'ai vu la culture entrepreneuriale française. C'est vraiment vrai que là-bas, que justement, on a toujours cette idée de un échec, c'est en fait un échec, une erreur n'est pas un échec, mais c'est pas final. On te reprochera jamais en fait d'avoir échoué à quelque chose parce que ça veut dire que tu as essayé. Et c'est quelque chose qu'on dramatise beaucoup moins là-bas et qu'on valorise, contrairement en France, qui est un truc qu'on se trimballe justement, je pense, du système éducatif. Où, genre, en fait, faire une erreur, c'est drama, c'est condamnable, etc. Et je trouve que à partir du moment où tu dédramatises l'erreur, tu libères énormément de choses, tu libères énormément d'ambition, tu libères énormément de volonté à faire des gens, de leur capacité à se mouiller, à s'engager, etc. Moi, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on avait deux fondatrices. Donc, une des fondatrices était à plein temps chez Goldman Sachs et une des fondatrices était enceinte. Et on était deux stagiaires à faire la boîte. Et elles venaient de lever un tour de 1 million. Elles nous ont laissé les clés de la boîte. Et ciao, bonsoir. Et je pense que du coup, il y a aussi moins de... Il y a moins de peut-être de méfiance vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de faire des erreurs, etc. Moi, c'est une expérience que j'ai adorée. Et voilà, après, il y a plein d'autres choses que je trouve qui sont critiquables aux États-Unis, etc. Mais je trouve vraiment ce côté de fais-le, vois, teste, améliore. Et c'est pas grave, en fait, si tu te plantes. est vraiment important. Et je pense que l'écosystème français essaie de le développer de plus en plus. Mais le problème, c'est que dans notre éducation, on l'a encore vachement. Et moi, c'est toujours une petite voix qui parle dans ma tête, oui, et qui me le dit. Hein.
C'est clair, mais c'est clair que ça progresse ces dernières années, beaucoup plus l'esprit entrepreneurial en France qui était un peu inexistant, en tout cas pas très développé dans les écoles il y a quelques années, quoi. Et donc forcément, on va aborder Ada Tech School. Donc tu as créé ça en septembre 2018. Comment justement tu as lancé, comment ça s'est passé un peu les premières semaines, les premiers mois de lancement de cette école?
Je vais commencer du coup du point de vue de l'entrepreneur et du coup dans la lignée de ce que je raconte là, qui est l'histoire en fait de la création. Moi, à ce moment-là où je décide de lancer Ada, enfin, de me pencher sur le projet d'école en fait, de réinventer le système éducatif, tout simplement, je suis toute seule. Je suis toute seule en plus, je suis bras ballants avec mon bâton de pèlerin et je me dis, bon, en plus, et je pense que c'est important de l'ajouter, je suis toute seule. J'avais un job alimentaire que j'avais à côté qui me dit, c'est plus possible, on peut plus continuer, etc. J'ai mon copain qui me dit, c'est plus possible, on peut plus continuer, etc. J'ai mes parents qui déménagent de la région parisienne et qui partent en région plus loin, à Bordeaux. J'ai ma colocataire qui me dit, on doit arrêter, je déménage avec mon mec, etc. Bref, un truc où tu as à nouveau... Le combo, à nouveau, tu vois, effondrement des fondamentaux. Un peu de trucs que je reconnais dans ce qui s'est passé en prépa. Genre, en fait, je pensais avoir, tu sais, ces petits piliers de vie que t'as empilés en disant, c'est bon, je construis un truc bien solide, bien clean. Et en fait, tout se pète en même temps. Et je me dis, bah, je vais en plus à ce moment-là. Donc, en plus, j'arrête l'autre boîte, on se sépare avec mon associé de la première boîte, etc. Donc, je me retrouve vraiment, vraiment solo. Avec du coup la question, je me rappelle de mes potes qui me disent, mais du coup, t'es sûr que tu veux te remettre dans un tunnel en plus de compliquer la tâche et de te relancer dans un projet de boîte. Et en fait, moi, je me dis, bah, en vrai, j'ai tellement rien là. que finalement c'est ça qui m'épanouit et c'est un de mes, voilà, on parlait des leviers de motivation, c'est ça en fait qui me fait lever tous les matins. Et si je m'enlève ça, et si je m'enlève ce projet, et si je m'enlève cette vibration, quoi, en vrai j'ai vraiment plus rien, quoi. Et donc j'ai commencé le projet d'Ada vraiment dans une situation personnelle, mais pas dramatique, hein, on parle pas de trucs affreux, mais globalement où t'es vraiment pas très solide sur tes appuis, ou en tout cas tu dois totalement les reconstruire. Et voilà. Et donc j'imagine ce projet de réinventer le système éducatif. Ça commence par se dire, bah, si on réinvente l'école, il faut qu'elle. L'école, c'est une marketplace, quoi. Donc c'est entre des élèves et c'est entre des recruteurs. Donc en fait, il faut que je comprenne aussi les recruteurs. Donc je suis allée rencontrer des recruteurs pour comprendre c'est quoi les compétences. En fait, si vous devez dessiner votre profil demain sur lequel vous recrutez, vous avez des difficultés à trouver, qu'est-ce que c'est? Et on me dit tout le temps le code, la tech. Et donc moi j'étais pas du tout tech, j'avais fait un bootcamp de code pendant mes études parce que on m'avait dit que ça servait à quelque chose et que je trouvais ça assez marrant, mais vraiment pas de lien particulier avec la tech. Même mon stage en startup, c'était pas une startup très tech, etc. Et donc du coup au début je me dis, franchement, qu'est-ce que j'ai à raconter en fait dans ce secteur, qu'est-ce que j'ai comme conviction. Et j'ai quand même regardé, et parce que notamment c'est la puce qu'on m'a mise à l'oreille, c'était les recruteurs qui me disaient, vous êtes une femme, et en fait des femmes on n'en trouve pas, etc. Et comme j'avais bossé en finance dans un milieu assez masculin, etc., je commence à regarder, je commence à checker les écoles, à appeler des directeurs et directrices d'école, trouver des devs sur LinkedIn, trouver des développeuses sur LinkedIn, etc. Et à chaque fois on me dit la même chose, ouais, c'est vrai que en fait t'es 5 nanas dans une promo, c'est un peu lourd et tout. Les mecs aussi te disent ça, franchement c'est un peu lourd, on se ressemble tous, etc. Les recruteurs te disent, j'en ai marre, mes équipes, ouais, c'est les usual suspects, on a des problèmes de diversité, on a des problèmes du coup de recrutement, etc. Et je me dis, en fait c'est assez marrant parce que moi la vision que j'en ai de la tech, qui est ultra cliché, stéréotypée, la raison pour laquelle je me suis dit, mais genre qu'est-ce que tu vas aller faire créer une école d'informatique. Et littéralement, la raison pour laquelle, en fait, il n'y a pas d'école, il n'y a pas assez de personnes qui se forment à l'informatique et que c'est toujours les mêmes personnes qui se forment là-dedans. Et je me suis dit que ça faisait vraiment sens dans cette idée de reconstruire un système éducatif par lequel tu apprennes par le faire, qui te donne des outils pour adresser les sujets du monde, par lequel tu apprennes à créer, qui soit assez coupé aussi, tu vois, de ce qu'on t'apprend au collège-lycée, et du coup qui te permette de te réinventer. Le code, ça en est un. Voilà, de réinventer une image, un cliché, de donner accès à des métiers qui recrutent, à des personnes qui n'en ont pas. Bref, en fait, le code répondait à tout ça de toutes les manières. Et je me suis dit, go, on va aussi réinventer le système éducatif de l'informatique. On va le repenser de A à Z avec ce projet pédagogique pour qu'il puisse devenir plus accessible, plus inclusif, en fait, à des nouveaux profils et qu'on en fait on s'en adresse à de nouveaux viviers de talents qui se sentaient pas capables de venir, quoi. Et c'était le projet d'ADA, c'était en septembre 2018. J'ai commencé ce truc toute seule jusqu'à septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. J'étais solo. Tous les jours, tu mets ton réveil. Alors j'ai eu beaucoup de chance. J'ai intégré un peu par effet de serpent, en fait. J'ai intégré sur mon ancienne boîte l'incubateur Pépite Île-de-France des étudiants entrepreneurs à Station F. Et donc, j'avais pitché mon ancienne boîte qui, pour le coup, voilà, on avait vendu, j'avais une histoire à raconter. Et je l'ai intégré avec cette boîte et en arrivant, j'ai reconstruit à zéro. Mais du coup, ce qui était ouf, c'est que j'avais un lieu dans lequel travailler tous les matins, dans lequel me lever, avec des gens autour de moi, avec voilà, une émulation, etc. Et du coup, bah, j'ai passé 4 mois à rencontrer des gens, rencontrer des recruteurs, des directeurs d'école, des devs, faire des recherches. J'avais été hyper bien formée à HEC sur toute la partie, tu vois, structuration d'idées, test and learn, proposition de valeur, test, etc., MVP, machin. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 4 mois jusqu'à ce qu'au bout d'un moment... alors déjà, je voyais que ça prenait. C'était le début de la... vague Femtech, etc. Et après, tout ce qui s'est passé socialement, d'ailleurs, sociétalement à côté. Mais en gros, new féminisme, Femtech, etc. Donc, ça avait quand même globalement beaucoup d'écho. C'était un bon time to market, on va dire. Et de l'autre, au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par rencontrer Yannick François, que j'ai associé au Capital, et qui était un dev de 20 ans d'expérience en tech, de 7 ans d'expérience en pédagogie, avec une vision de ouf sur Montessori, Freinet, etc. Donc, énorme match en termes de vision pédagogique. Et avec lui, en fait, j'ai commencé à construire des petits formats d'ateliers, puis ensuite le programme. On a testé les formats sur des vacances, gratuitement, etc. Moi, j'ai commencé à bricoler un site en no-code, sur lequel on racontait notre manifesto, le programme dans les très, très grandes lignes, avec onglet candidature. Et puis, on a commencé à en parler partout autour de nous, faire des réunions d'information. On a eu de la chance aussi d'être accompagné par The Family. Et donc, The Family nous prêtait une salle et on faisait des réunions d'information toutes les 2 semaines chez The Family où on présentait la formation. Et là, on a commencé à recevoir des candidatures. Et donc, après, je m'arrête là, mais exactement. C'est comme ça qu'on a...
On arrive à cette première promo, du coup. Comment tu l'as vécu, toi, l'arrivée de cette première promo? Parce que c'est quand même super marquant lorsque tu crées une école, de recevoir la première promo. C'est un peu un premier aboutissement du projet, on va dire.
Ouais. À nouveau, pour être honnête, c'est comme quand je disais que je voulais pas croire ou voir que j'étais entrepreneur. Jusqu'au jour où ils ont poussé la porte, j'ai pas cru qu'il allait avoir une promo. Genre vraiment, je me suis dit, en fait, il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, quand même, j'ai l'impression que ça arrive, ce truc. Il y a eu vraiment des périodes où je me disais, mais je vois pas comment cette chose peut se concrétiser. J'avais un peu ce truc qu'on m'avait répété dans la tête pendant la formation, l'importance à l'exécution, et je sais pas pourquoi j'avais une voix qui me disait dans ma tête, genre, tu n'exécutes pas. Enfin, je pense que pendant 9 mois, j'avais une voix qui me disait, genre, mais tu n'exécutes absolument pas, qu'est-ce que tu fais? Mais parce qu'un projet d'école, en vrai, c'est un gros projet, et qu'avant que la personne pousse ta porte, t'as pas grand-chose, quoi. Et alors, il y a eu un moment quand même, avant que la première personne pousse la porte, Déjà parce que je voudrais que j'explique comment on a eu une porte. C'est que c'est qu'en juillet 2019, donc moi j'ai rencontré Yannick en février 2019. On a bossé sur le programme, sur les formats, sur tout test and learn, recrutement des premiers marques d'intérêt jusqu'à juillet 2019. Et juillet 2019, on trouve un local super chouette. Alors que bon, on s'était dit on fera dans une salle de The Family. Et on trouve un local super chouette et je me dis oh là là, ça serait quand même trop bien, ça correspondrait. C'est quelque chose qui me semblait important dans mon école, c'était qu'on ait un lieu et qu'on ait. Qu'il y ait une matérialisation de la marque et de l'environnement et justement de l'univers en fait qu'on a envie de créer. Et je vois ce local et le mec il me dit, le bailleur il me dit voilà, il est dispo, la rentrée était le 9 octobre, il est dispo, il sera dispo mi-septembre, ça peut te stocker X personnes, c'était genre ce que j'avais posté, c'est ce que j'avais prévu dans mon BP et tout. Est-ce que vous êtes intéressé? Moi je dis genre oui, je suis intéressé. Il me dit ok, bah on signe les papiers dans 3 semaines. J'avais pas d'argent, donc du coup j'ai décidé de lever des fonds et j'ai déclenché du coup une levée de fonds à ce moment-là. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça, hein. Et j'ai pas du tout signé un local 3 semaines après. Fait jouer la montre pendant plutôt 3 mois. ça a été
logique.
Et on a levé 500 000 euros en juillet du coup 2019 pour nous installer dans notre local, pour recruter une petite équipe aussi, parce que bah, qui dit solo founder dit qui dit école dit besoin de plus. et commencer avec des profs, et puis forcément on allait avoir une progressive montée à l'échelle et du coup de ramp up de l'établissement et d'amortissement des coûts fixes, et donc du coup fallait un peu de réserve, et du coup c'est ce qui nous a permis de faire une partie en equity, une partie en dette, et on a ouvert comme ça en octobre 2019, ce qui nous a permis de nous lancer avec 11 élèves dans un beau local dans Paris, avec des profs qui étaient bien payés, et de recruter 2 personnes qui ont rejoint l'équipe également en octobre. Et du coup ce qui est un truc de ouf avec cette histoire, c'est que, enfin, que je, qui a été une grosse claque également, c'est qu'en fait je suis passée de 1 à 20 du jour au lendemain, puisque bah, en fait j'avais 11 élèves, mais vraiment tout est arrivé le même jour, les élèves, les profs et les 2 personnes dans mon équipe à ce moment là et du coup de 1 à 20 en 24 heures, en 48 heures, ça a été un gros jump, et c'est vraiment le moment où tu vois j'ai un gros, et là j'ai réalisé que l'école était ouverte.
Ouais, c'est impressionnant parce qu'au final en 12 mois il se passe beaucoup de choses quoi, entre le fait de trouver un associé, le fait de lever des fonds, le fait de trouver un local et ensuite d'avoir la première promo et de recruter les premières personnes, on va dire. Bah c'est tout nouveau quand tu l'as jamais fait, donc c'est clair que à vivre ça a dû être aussi un peu surprenant quoi, et difficile à réaliser potentiellement dans les premiers jours.
Ouais, j'ai eu, tu vois, je l'avais jamais fait, mais enfin ma première boîte m'a aidé à le faire et à comprendre en tout cas les premiers mois, tu vois, le fait d'avoir monté une fois ma boîte, deuxième fois finalement, même si on n'est pas du tout dans la situation du vrai serial entrepreneur, hein, pour moi. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment gagner du temps. Et puis ouais, ça allait vite. Et je pense que quelque chose qui est aussi à jouer dans le fait que ça aille vite, c'est que, et c'est important, moi j'avais sorti d'études, j'avais pas de chômage, j'avais pas d'aide particulière. Et du coup, je faisais. Je faisais des services au restaurant le soir et je venais des cours le week-end, l'après-midi, pour subvenir un peu à ça. Et donc j'ai trimé comme une folle. Je me suis vraiment un peu mis la tête dans le guidon, et du coup pour moi il fallait que ça aille vite, parce que c'était pas du tout quelque chose que je, c'était pas tenable comme rythme, et c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Mais en tout cas, je pense que l'absence d'argent te fait aussi aller cavaler quoi.
Et ma prochaine question, c'est quelques mois après, comment s'est passé, quel a été l'impact de la pandémie qu'on connaît tous sur Ada?
Nous, il y a eu la pandémie, il y a eu un autre truc. Donc nous, on fait 3 rentrées par an. Une en octobre, une en janvier et une en mai. Et on avait vachement d'espoir sur janvier. On se disait, voilà, la première, c'est la plus dure. La deuxième, ça sera, ira mieux. Et en fait, entre-temps, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves. On avait construit à ce moment-là toute notre stratégie de d'acquisition autour de la confiance et donc autour du fait de venir voir l'école, d'assister à des réunions d'information, de rencontrer des profs, etc. Et en fait, avec les grèves, etc., c'était impossible, etc. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de remplir une promo que ce qu'on imaginait à ce moment-là. Et du coup, on fait une deuxième promo en janvier à 3. Ils arrivent et puis deux mois après, shutdown mondial, Covid, etc. Je trouve qu'il y a... Enfin, on a dû passer à l'école à distance, il n'y avait pas de doute, il fallait qu'on ferme, etc. Je dirais pas que le plus dur... Alors déjà, en fait, quand on existe depuis 4 mois, on n'a rien à réinventer. Se réinventer au bout de 4 mois, c'est franchement, c'est peanuts quoi. T'es hyper agile, donc au fond, ça nous a pas demandé beaucoup d'efforts. Ce qui a été dur, c'est pour les élèves, parce que en fait, quand tu t'engages sur une formation dans laquelle tu penses que tu vas passer 9 mois et qu'en fait, t'as ce truc super bizarre, et puis en fait, le premier confinement c'était quand même beaucoup plus violent que les deux suivants, c'est qu'on savait pas ce qui se passait, etc. Enfin, nous on a quand même des gros cas de déprime, de gens qui ont arrêté de venir pendant des semaines, etc. Donc, ça a été très difficile. Les élèves en eux-mêmes et le fait de tenir la route. On les appelait, on les motivait, etc. Mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et paradoxalement, il y a un autre point qui était positif. Et là, à nouveau, je parle en tant que par le biais de l'entrepreneur, entrepreneuse. C'est que moi, en fait, j'avais pas décodé le fait que, du coup, ce fameux passage de 1 à 20, notre école, elle est quand même hyper ouverte, c'est un grand open space, etc. En fait, ça m'avait épuisée. Mais en fait, après le grand sprint de l'avant-rentrée, du 1 à 20, de la réorganisation de 1 à 20, de découvrir ce que c'était le management, de découvrir ce que c'était les problèmes, la facturation, le paiement, les salaires, les machins, etc. En fait, moi, le moment où le confinement est tombé, j'étais rompue et vidée, et j'avais l'impression d'avoir été tellement tractée par l'opérationnel que en fait j'avais beaucoup, beaucoup de recul et de hauteur sur ce que je faisais. Et en fait, moi, j'ai découvert un truc que j'ai adoré, c'est le télétravail. Et le télétravail, c'est formidable pour un entrepreneur et pour, en tout cas, une CEO. En tout cas, pour moi et ma personnalité, c'est que ça m'a créé des bulles, en fait, où j'avais le temps de bosser sur des sujets stratégiques, de reprendre de la hauteur, de restructurer. Parce que le télétravail aussi a eu besoin qu'on structure énormément nos process de management, de reporting entre nous, etc., que c'est un sujet qui m'a passionnée en plus à faire et que du coup qui a été forcé par l'occasion. Et en fait, j'ai jamais autant affirmé mon rôle de CEO et compris ma boîte et comment je voulais la construire et mon rôle en tant que CEO que grâce à ce confinement et aux opportunités que ça a créé pour moi de recul et organisation interne. Et du coup, pour moi, ça a apporté, personnellement, ça a apporté des choses super. Et je pense que pour la boîte, du coup, aussi beaucoup.
Ok, trop cool. Et en termes d'organisation, justement, est-ce que vous êtes passé en mode... est-ce que vous avez créé un programme potentiellement 100% digital ou est-ce que c'est en réflexion ou...
C'est en réflexion. Nous, aujourd'hui, on propose une formation en 2 ans parce qu'on forme des devs logiciels, parce qu'on a la vision d'être une école d'informatique. Et que on sait que la pénurie, elle se situe vers des profils qui sont pas expérimentés, mais qui ont un solide bagage technique. Et ça sera de plus en plus comme ça en fait avec l'émergence d'un côté du no-code et de l'autre en fait des besoins techniques de plus en plus experts et poussés. Et du coup en fait on propose une formation qui est relativement longue. Et c'est vraiment une de nos convictions pédagogiques que l'apprentissage du code, ça se fait sur le temps long. Et du coup, en fait, le truc, c'est que si tu passes ça en ligne, c'est violent, en fait. Une formation longue, seule chez soi, en termes de rythmique et de motivation, c'est violent. Ou alors, tu t'adresses à une population qui a un bon chez soi, avec une pièce fermée, potentiellement du coup plus âgée, potentiellement plus riche aussi. Donc du coup, c'est aussi une autre histoire qui à construire. Et donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on exclut. Mais je pense que pour l'instant, on a une mission et une vision qui situe sur l'école, quoi, et la formation. Et peut-être que voilà, on va probablement bientôt développer des modules d'initiation pour te donner envie et te donner envie de rejoindre l'école et de comprendre que c'est fait pour toi. Mais pour moi, une formation en 2 ans de chez soi, c'est dur.
Ok. J'aimerais parler maintenant du fait que Adatech School, c'est une école d'informatique féministe. C'est quoi justement une école d'informatique féministe ? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
Ouais. Alors, vous avez compris l'objectif qui était de dire, en fait, on n'a pas assez de femmes dans l'informatique, on n'a pas assez de diversité dans l'informatique, donc en fait, on va aller répondre à ce problème de diversité. Moi, je pense que la diversité dans l'informatique, c'est pas qu'une question de baguette magique et de dire, on va faire des écoles de femmes où on va dire aux femmes de venir et hop, ça sera fini. Je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus insidieux, qui est beaucoup plus latent et beaucoup plus systémique et qui demande une réponse beaucoup plus complexe. Mais au même titre que, pour moi, les problématiques de discrimination aujourd'hui qui sont de plus en plus... Alors, non, il y a des discriminations largement visibles et vocales, etc. Mais il y a aussi beaucoup de discriminations qui sont tues. On grandit quand même à l'école en France quand on nous dit « vous êtes tous égaux, noir ou blanc, femme ou homme, mais non, la discrimination, ça n'existe pas, c'est l'égalité, liberté, égalité, fraternité ». Et en fait, du coup, ça tait beaucoup, en fait, de discrimination dans les faits. Et c'est ça qui, du coup, aujourd'hui, pour moi, on a besoin de solutions qui sont de reconstruction et qui sont des solutions systémiques plutôt que des solutions one-shot, etc. Et donc, du coup, en fait, construire ADA comme une école féministe, c'était pas dire, voilà, on va faire une école de femmes, ou on va faire une formation pour femmes, etc. Mais c'était de repenser, en fait, le système pour qu'il soit plus égalitaire pour le cas du genre. Mais ce qu'on observe, en fait, c'est qu'en déconstruisant, en fait, l'accessibilité de ces métiers aux femmes, on déconstruit aussi à beaucoup d'autres aujourd'hui minorités dans ce secteur. On a vraiment une diversité de profils qui va... on a beaucoup de femmes, on a 70% de femmes et 30% d'hommes. On a des diversités d'orientation sexuelle juste hallucinantes, au fond, ça peut faire péter tous les scores des ratios. On a des diversités en termes catégories socio-professionnelles, de bagages académiques, d'origine extrêmement riche. Et donc du coup, moi, une de mes convictions, c'est qu'il s'agit de reconstruire le système dans chacun de ses maillons. Donc on a retravaillé la communication, comment t'informes, comment tu recrutes des gens en école d'informatique. On a retravaillé en fait, l'informatique, c'est un outil hyper social. Tu passes beaucoup plus de temps à déconstruire le problème, te synchroniser avec tes équipes. Si tu veux faire du code qui est transmissible, il faut que tu te mettes dans la peau de ceux qui vont récupérer en fait cette matière-là, parce que sinon tu crées du code avec une dette énorme. L'informatique, c'est un outil créatif. Coder, c'est un processus créatif qui peut être douloureux, comme écrire, dessiner, etc., qui demande beaucoup d'entraînement. C'est un modèle de résolution de problèmes, pas forcément des mathématiques, mais d'un modèle de résolution de problèmes qui peut qui peut s'adresser à tout plein de profils. Et tout ça, en fait, on l'a retravaillé dans la communication, l'information, nos événements et la façon de recruter nos élèves. Ensuite, il y avait la façon comment on les accompagnait, comment on les accompagne d'ailleurs, sur la pédagogie, l'environnement, comment tu valides les compétences, quelle est ta relation avec les profs, quelle est ta relation à la compétition, à la comparaison, comment on te met dans un état de test and learn sans dramatiser l'échec, comment on valorise le fait que tu as ta façon de faire à toi et c'est important de cultiver ce jardin intérieur que tu es et que tu as. Et troisième point, avec quelles entreprises on travaille pour que, en fait, parce que c'est le sujet, c'est aussi la rétention des talents, pour que les entreprises, et en vrai, on est sur un super momentum en ce moment, capte qu'en fait, il y a une part de reconstruction de culture, de process, d'organisation interne, de définition de l'excellence, etc., qui a à faire pour que, ben, en fait, y a aussi de la rétention et que cette diversité, elle soit incluse, et elle s'épanouisse dans ton entreprise, parce que sinon, en vrai, ça sert à rien et tu perds tout et tu as perdu tous tes efforts, quoi.
Ok, et mais c'est clair que du coup, il y a une immense partie de sensibilisation en amont de l'école, justement, même potentiellement auprès des parents, je pense. Enfin, un peu un changement des mentalités sur le métier, tous les métiers liés à l'informatique.
Ouais, carrément. On bosse avec quelques assos dessus, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Je pense que c'est ultra dur de faire changer la mentalité de générations qui n'ont pas eu. Enfin, je pense que, et en plus pour leurs enfants, ouais, le truc, c'est le plus difficile. Enfin, moi, du coup, je l'ai vu avec ma première boîte. Toucher à l'orientation de tes enfants et à leur parcours d'études, waouh, c'est le truc le plus difficile pour un parent à accepter de déconstruire quelque chose et se dire, OK, il va faire ce, il ou elle va faire ce qu'elle veut. Mon fils sera infirmière et ma fille sera ingénieure, tu vois.
Ouais. Hardcore. par rapport à Ada, justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Ada, c'est pour Ada Lovelace, qui était la première développeuse de l'histoire. Et c'est vrai que je pense que y a peu de gens le savent potentiellement, que c'est une femme, la première développeuse de l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle et comment ça t'a inspiré justement pour le nom de cette école?
Ouais. Quand on a dû trouver le nom, ce passage très important pour un entrepreneur de trouver le nom de ta startup, du coup, on cherchait une référence qui casse un peu avec la culture geek très connue dans l'informatique, qui est la culture la plus connue, et tu dis informatique, tu penses à ça, quoi. Et d'aller chercher quelque chose de pertinent, mais qui, voilà, qui casse un peu les codes du genre et qui fasse potentiellement une référence à... chose de féminin. Et en fait, il y a plein de femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique. C'est un peu l'histoire, et c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est une école féministe, mais c'est un peu le cours de l'histoire. L'histoire est toujours écrite par les gagnants. Donc, on a largement occulté les personnes issues des minorités, les femmes, etc., des grandes contributions scientifiques, etc. Je sais plus, il y a un vaccin, en fait, qui a été totalement inventé par une nana, et c'est ses collaborateurs qui ont mis le mot dessus. D'ailleurs, il y a pas mal de sujets sur la NASA, je crois qu'il y a eu un sujet récemment, où en fait, il y a quelqu'un qui a récupéré enfin le travail qu'elle avait fait. Bref, du coup, on allait voir du côté de l'histoire de l'informatique, et en fait, Ada est effectivement considérée comme la mère de l'informatique. Alors, c'est pas tout à fait une dev, parce que Ada Lovelace est une comtesse du 19e siècle, donc il n'y avait pas du tout d'ordinateur à ce moment-là, mais c'était une mathématicienne passionnée de maths, de calcul, qui du coup faisait une discipline qui n'était pas tellement réservée aux femmes à cette époque-là, mais qui, enfin, c'est encore plus marrant que ça, mais son père était Lord Babbage, qui était un poète, qui a trompé allègrement la mère d'Ada Lovelace. Donc Ada Lovelace a dit la poésie, ça rend les gens fous, donc du coup tu vas faire des maths. Donc c'est comme ça que Ada s'est retrouvée à faire des maths, et ça l'a rendue assez malheureuse, parce que du coup c'est pas facile de faire des maths quand t'es une femme à ce moment-là de l'histoire. Et elle a inventé en fait une machine qui permettait de programmer des calculs, et qui est en fait a été considéré comme le premier algorithme de l'histoire, et du coup elle est considérée comme en fait la mère de l'informatique, puisqu'elle a créé le premier algorithme de l'histoire, qui est quand même la puissance de calcul, enfin non, les instructions de calcul pour un ordinateur. Et moi je trouvais que c'était un joli nom féminin, et qui en fait met en lumière justement toute cette histoire oubliée de l'informatique. Il y en a plein d'autres, hein. On a une exposition dessus, et que du coup en fait on n'est pas obligé d'écrire l'histoire d'aujourd'hui comme on est en train de l'écrire, parce que en fait il y a un passé qui te rappelle que en fait il y a beaucoup plus de diversité et de raisons de... En fait, on peut pas dire que les femmes aiment pas l'informatique, quoi. Et ça crée des rôles modèles pour les plus jeunes, et ça décrédibilise ce message que il y a des métiers pour les mecs, il y a des métiers pour les meufs.
Exactement, c'est clair. Pour conclure un peu sur cette partie à Ada Tech School, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres, quelques stats sur l'école, et puis ensuite quels sont les objectifs futurs pour l'école?
Ouais. Donc, on a ouvert en 2019 avec 11 apprenants. Aujourd'hui, on en a une soixantaine d'inscrits en formation. On a fait 6 promotions. On est une équipe d'une dizaine de personnes. Financièrement, enfin, tu vois, économiquement, on était à l'équilibre pour notre première année. Et du coup, nous, aujourd'hui, on est en train d'écrire une nouvelle page pour la société, puisqu'on est en train de lever un nouveau tour de table qui va nous permettre de préparer l'ouverture d'une deuxième école en région d'ici un an, on l'espère, un peu plus d'un
Super.
An. Et voilà, donc grossir Paris, recruter l'équipe et préparer l'ouverture d'un nouvel établissement.
Super, trop cool. On va pouvoir passer à la partie 3 du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Et ma question, c'est peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui ?
À chaque fois qu'on me la pose, j'oublie ces gens et à chaque fois, je me dis il faudrait que je les note. Moi, en vrai, Alice Zaguri m'inspire beaucoup. Elle est une des cofondatrices de The Family.
Ouais.
Elle a un franc-parler et... en fait, elle est elle-même et elle... moi, ça m'a fait vachement de bien parce que venant d'un milieu plutôt comme il faut, HEC, c'est l'entrepreneuriat un peu, c'est comme il faut, quoi. Et Alice, elle a un peu a mis un coup de pied là-dedans et du fait que, en fait, ce qui était tes imperfections, ce qui était tes aspérités, était ta conviction, était toi, était ce qui faisait que ça allait marcher. Et moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné, c'était assumer tes aspérités. Parce qu'en fait, c'est ça qui séduit, c'est ça qui engage les gens derrière toi, c'est ça qui crée en fait ton réseau. Et je trouve voilà, qu'elle a une façon de s'exprimer, de mener les choses. The Family, c'est aussi des gens qui se réinventent en permanence et qui ont
c'est
aussi
clair.
Beaucoup déconstruit ce côté de tout doit être parfait tout le temps, etc. Et tu peux reculer pour mieux sauter. Donc c'est une des personnes que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup Jean-Charles Samuelian de Alan pour tout l'intellectualisation. Je sais pas s'il est vrai que je dis ça. Non, mais la vision justement à ce que je parlais, parce que c'est ce que j'ai réalisé au moment du Covid, de la dimension organisationnelle et penser l'intérieur de ta boîte comme tu veux penser l'extérieur et de repenser ton... En fait... ton entreprise, et ça me fait penser à Veja, du coup, tu vois que j'oublie toujours. C'est dans quelle mesure, en fait, au-delà de ton produit et ce que tu donnes à tes utilisateurs, tu peux aussi le penser à l'échelle de ton entreprise et à l'intérieur. Et pour moi, c'est tellement, tellement important aujourd'hui que tu aies un alignement entre ton équipe, tes équipes et ce que tu racontes au monde et à tes utilisateurs et utilisatrices. Et du coup, pour moi, voilà, Veja et Alan, c'est des personnes qui ont repensé aussi leur organisation à l'intérieur, dans leur globalité, et je trouve que c'est ça un vrai beau projet d'entreprise. C'est pas seulement... tu crées de la valeur, non pas seulement par ton offre, mais parce que tu crées à l'intérieur, et pour tes équipes, et pour toutes les personnes, l'intégralité des personnes que tu touches. Et ça me parle beaucoup.
Ok, très clair. Deuxième question, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer ?
Bah, moi, je dirais de se débarrasser du syndrome du bon ou de la bonne élève, de toujours devoir tout bien faire, que va-t-on en penser, et si ça plante, qui va me regarder et se dire la honte. Donc, je dirais, se débarrasser de ce truc un peu lourd et qui sert vraiment à rien, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'exigence, hein. Ça ne veut pas dire qu'on veut mieux faire, mais ça veut dire qu'on se débarrasse de cette petite voix de bon ou de bon élève qui est de bien faire et si, etc. Je pense qu'il n'y a rien de plus admirable que quelqu'un qui fait et qui se bouge et personne n'en tiendra jamais rigueur à personne d'avoir essayé de faire quelque chose, surtout en ce moment, je pense que nous en avons besoin.
Totalement. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec des petites questions rapides ou pas, hein, parce qu'on est dans un podcast, donc on a le temps qu'on veut. Le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Il y a un livre que je conseille tout le temps sur le sujet justement du féminisme, etc. En fait, il y en a deux. si vous êtes vraiment chaud et là vous êtes dit vas-y j'ai envie de comprendre, il y a des trucs, il y a Sorcière de Mona Chollet qui est trop bien, qui déconstruit un peu le, alors c'est vraiment si quelqu'un a envie de se lancer dans du vrai féminisme, enfin du vrai déconstruction de la situation des femmes au 21e siècle, mais c'est trop cool sur la vieillesse, le fait d'avoir des enfants, le fait d'être célibataire. Donc c'est vraiment un super bouquin, très très documenté, avec des références de tout en tout genre, mais du coup c'est quand même un gros morceau. Il y a un autre livre sur le féminisme, du coup, qui est pour le coup très très rapide. En fait, c'est un TED Talk, donc vous pouvez le regarder en TED Talk à la place de lire, qui est de Chimamanda Ngozi, je sais jamais si j'oublie une syllabe, qui s'appelle Nous sommes tous féministes, et qui est un livre chambé, qui est, enfin, du coup, un talk super cool, qui aussi prend le parti de en quoi, qu'est-ce que ça apporte aux hommes, et en fait, c'est pas du tout un truc vindicatif et de destruction, etc. Mais c'est plus, en fait, la possibilité d'une plus grande liberté d'être qui tu veux, comme tu veux, d'une façon, enfin, ça déconstruit masculin, féminin, etc. Donc, c'est vraiment trop cool. C'est un peu souvent les références que je donne parce que c'est informatif.
Ouais, c'est très bien.
Ouais, c'est bien.
C'est très clair. Est-ce que tu as un film à me conseiller ?
Je vais tomber un peu dans le cliché du coup de la meuf qui fait son podcast sur les femmes et la tech. Hein, donc, mais à la fois, c'est The Hidden Figures sur les femmes de la NASA, les programmeuses de la NASA. Ça serait quand même logique que je recommande ce film qui, du coup, voilà, parle typiquement de ces fameuses figures de l'ombre, c'est le nom en français, okay, qui ont contribué aux grandes recherches scientifiques.
Très bien. Ta musique du moment ?
C'est trop une question. Ma musique du moment, j'en ai une, mais évidemment c'est toujours des questions où t'oublies quand on te dit attends, je peux regarder mon Spotify ou pas?
Bien sûr,
en jouant des claquettes en même temps.
Yes.
Quel est mon titre Spotify le plus écouté? J'espère qu'on va pas tomber sur le Roi Lion ou un truc comme ça.
Oh, ce sera validé aussi, t'inquiète pas.
C'est Warm in These Blue Jeans de Rasharn Powell, voilà.
Okay.
Très cool, très je vous le recommande.
Super. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière. L'éducation nationale.
Ah non, franchement, celle-là, je m'en occupe pas. je la leur laisse. Franchement, c'est hyper difficile. Je sais pas si c'est, je la rachèterais parce que je veux faire une plus-value ou parce que je veux, je crois de ouf au produit. Franchement, je leur dis, c'est nul, mais Alan est une boîte de ouf. Je l'utilise, je suis utilisatrice, c'est trop stylé. Ça te donne envie de prendre soin de toi et de ta santé. Et j'aime trop la culture, donc je dirais Alan encore.
Très bien.
C'est pas très original.
Le message sera passé. avant-dernière question, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ?
Non. Là, j'ai pas.
Bah, écoute, on est bien. Et ma dernière question que je demande à chaque épisode aussi, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Marie Taquet d'Iconoclasse, c'est aussi déjà dans l'éducation. Déjà eu ? Mais non.
Oui, l'année dernière. Mais super profil. Et en plus, elle a levé 3 millions aujourd'hui, je crois.
Ouais, exactement. Bon, elle les a levés il y a quelques... C'est toujours un peu décalé.
Oui.
Elle a déjà dû dépenser la moitié, je pense. Je rigole. Non, Marie est charmée. C'est une bonne amie. Tac. Hugo Volpi de Trône, les toilettes.
Ok, trop cool.
Voilà.
Business atypique. Trop bien, super. Merci beaucoup Chloé pour cet échange, c'était trop cool. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a plu aussi aux gens qui nous écoutent. Et puis pour les gens qui sont intéressés par Datech School, n'hésitez pas à aller sur leur site. Et puis sinon, on se retrouve bientôt sur Serial Entrepreneur.
Merci beaucoup.
Ciao.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. t'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin, et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.